À toutes et à tous. On va continuer dans la thématique de ce matin. J'étais cette semaine, c'est la saison des repas de fin d'année qui commence à commencer, un peu tôt, mais j'ai eu mon premier repas de fin d'année dans une commission dont je fais partie. Et j'étais... on est tous impliqués dans la coopération. Et je me suis rendu compte, en fait, Donc, on fait un peu le bilan de notre monde. Il y a quoi déprimer. En fait, on avait cette conversation autour de la table. Et les gens étaient submergés. Et je n'ai même pas été capable de leur apporter une note d'espoir. J'étais bloqué, moi aussi. Et à ce titre-là, les gens dont on a parlé depuis ce matin, et dont on va continuer à parler, sont des exemples. Parce que malgré leurs circonstances, malgré leur monde qui s'effondre, eh bien, ils nous insufflent de l'espoir. C'est pas facile, hein, de se mettre à la place des gens, d'être empathique. Mais c'est important. Et c'est important de mettre ce dimanche à part aussi pour nos frères et sœurs persécutés. Et ça nous conduit inévitablement à une question, à la question de la souffrance. Effectivement, si on réalise qu'autour d'Ayouba, de Gertrude, de Marie, et en fait, 360 millions de chrétiens dans le monde aujourd'hui, victimes de discrimination et de toutes sortes de violences à cause de leur foi, il y a de quoi chanceux. Et la Bible, elle manque pas d'exemples de personnes qui ont souffert pour le nom de Dieu. On pense forcément à Job, qui a subi les persécutions du pire persécuteur qui soit, le diable en personne. Il a tout perdu, sa famille, sa santé, sa fortune. On peut penser à la mort atroce d'Étienne, dont Saul à l'époque devenu Paul, était le persécuteur. Ou encore même à Paul lui-même, persécuteur devenu persécuteur, battu, lapidé, emprisonné pour sa foi. Et donc, à différents degrés et pour différentes raisons, on est en fait tous concernés par la souffrance. La perte d'un proche, la maladie, un divorce douloureux, des enfants qui s'éloignent de la foi, le rejet, les conflits, impossible de l'éviter. Et évidemment, la raison de la souffrance, ça ne va pas être le thème d'aujourd'hui, c'est une des grandes questions de la vie, une question quasiment insoluble, elle a toujours été présente. Et dans le cas des chrétiens persécutés, la souffrance fait partie du prix à payer pour suivre Jésus. Pour suivre Jésus dans un monde qu'il rejette. Dans d'autres cas, la souffrance, elle peut être aussi causée par notre propre péché et nos mauvais choix, ou encore par le fait simplement qu'on vit dans ce monde déchu, et ça sera le cas jusqu'au retour de Christ. Alors si la question du pourquoi reste un mystère, on n'a pas d'autre choix que d'affronter la question du comment. Comment réagir à cette souffrance? Et quelles attitudes on peut adopter quand elle se manifeste? Comment ne pas s'effondrer, comment ne pas sombrer dans l'amertume, comment ne pas sombrer dans la déception ou le désespoir. Et la Bible, parce qu'elle relate beaucoup de personnes, beaucoup d'histoires de personnes qui ont vécu cette souffrance, la Bible nous apporte des éléments de réponse. Et on va se baser ce matin sur l'étude du psaume 13, dont François a cité un verset tout à l'heure, un psaume écrit par David. Et en 6 versets seulement, ce psaume 13 nous donne des clés utiles pour exprimer notre souffrance, pour ne pas laisser l'amertume s'installer, et puis surtout pour recevoir la joie et la grâce que notre Seigneur nous offre. On va lire ce psaume 13. Je lis dans la version secondaire. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à moi? Regarde, réponds-moi, éternel mon Dieu. Donne la lumière à mes yeux, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. En effet, mon ennemi pourrait dire « Je l'ai vaincu », et mes adversaires se réjouir en me voyant ébranlé. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. La première partie, elle traite la question d'exprimer notre plainte. Jusqu'à quand, Seigneur? Et dans ces versets 2 et 3, David épanche son cœur devant Dieu en quatre plaintes assez directes qui pourraient même sembler quelque peu accusatrices. Mais ces plaintes ressemblent d'assez près finalement à ce que nous ressentons parfois, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes. Et c'est bien là la force du livre des psaumes, hein, comme l'écrit un chrétien persécuté. Le livre des psaumes est l'un des livres les plus lus et les plus appréciés de la Bible, alors que la plupart des textes bibliques nous parlent, les psaumes parlent pour nous. Ils expriment nos sentiments les plus profonds. Voilà ce que nous dit un chrétien persécuté. Et c'est vrai, et ce psaume en est effectivement aussi l'exemple. Et donc la première chose, c'est dans ces quelques versets, ne pas craindre de se plaindre honnêtement devant Dieu. Parfois on réfrène les choses, mais en fait il semble y avoir une constante dans les réactions de David, de Job et des autres face à la souffrance. Tous se montrent parfaitement honnêtes avec Dieu. Tous lui expriment leurs tourments et leurs questions. Ils ne cherchent pas à les minimiser ou à garder pour eux leurs émotions. Et au contraire, ils ouvrent leur cœur avec vérité devant le Seigneur. Un Job déclare dans Job 7, verset 11, « C'est pourquoi je ne me retiendrai pas. Je parlerai dans la détresse de mon esprit. Je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. » Ce n'est pas toujours évident d'exprimer ses émotions. Hein. Peut-être certains ont plus de facilité que d'autres dans cette salle. Mais pour eux, pour Job en particulier, c'est l'amitié qui le lie à Dieu, qui lui donne cette audace. Et c'est parce que ces témoins de la foi sont si proches de l'Éternel qu'ils se sentent libres de s'exprimer ouvertement. Donc n'hésitons pas aussi à épancher nos sentiments devant Dieu. Deuxième point important, c'est d'identifier et de reconnaître nos sentiments. Avec ces quatre « jusqu'à quand », David identifie les différents sentiments qu'il éprouve et qui sont douloureux pour lui, tant sa situation personnelle est terrible à ce moment-là, il est poursuivi par Saül. Et aussi, ça influe sur sa relation avec Dieu. Voilà ce qu'il exprime avec ces quatre « jusqu'à quand ». D'abord, le sentiment d'être abandonné de Dieu, d'être oublié de Dieu. On sait que ce n'est pas vrai, c'est juste un sentiment. Et voilà ce qu'il exprime. Ensuite, le sentiment d'être rejeté, privé de la faveur de Dieu. Il y a aussi le poids des soucis, les chagrins qui remplissent son âme, et puis la crainte d'être maltraité et humilié par les autres dans ses relations avec les autres. Et c'est vrai que dans la souffrance, il est facile de se sentir seul, d'abord éloigné de Dieu, et aussi de se laisser gagner par le mensonge que Dieu, en fait, nous a rejetés, Dieu nous a oubliés. Et dans les témoignages qu'on lit, donnés par portes ouvertes, souvent les chrétiens persécutés expriment aussi ces sentiments avec honnêteté. Je vais vous lire juste le témoignage du jeune Traoré, qui est du Burkina Faso, qui était avec son père quand celui-ci a été assassiné par les peuples. Voilà ce qu'il dit honnêtement. « J'ai parfois l'impression que Dieu m'a abandonné. Mais quand je lis la Bible, je me rends compte qu'il est avec moi depuis le début. Je pensais que Dieu ne se souciait plus de moi, mais il m'a soutenu durant ma souffrance. » Alors comme David et comme Traoré, n'ayons pas peur de reconnaître ces différents sentiments qui peuvent nous assaillir, qui peuvent nous traverser, la solitude, l'abandon, le rejet, la crainte. et n'ayons pas peur de les exprimer à Dieu. Malgré cela, il y a une chose importante à dire, c'est d'éviter ce qu'on pourrait appeler le cercle vicieux de la souffrance et de l'amertume. Parce qu'à l'inverse, si on garde ces sentiments enfouis en nous, si on préfère les ignorer ou les cacher plutôt que de les assumer, ils peuvent facilement enraciner l'amertume dans nos cœurs. Et ces racines d'amertume, qu'est-ce qu'elles produisent ? Elles produisent des fruits de colère, des fruits d'insatisfaction, des fruits de conflit avec les autres. Et ces fruits vont davantage encore conduire à de la souffrance dans nos vies et dans celles des gens qui nous entourent. Et dans la lettre aux Hébreux, Hébreux 12, 15, il y a un verset qui dit bien cela. « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. » Job aussi parle de cette nécessité au verset 11 du chapitre 7. Hein, c'est ce verset que j'ai déjà cité. « C'est pourquoi je ne me retiendrai pas. Je parlerai, je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. » La seconde partie du psaume, elle pourrait être intitulée « Nous attendre au secours de Dieu ». Et c'est ce verset « Regarde, réponds-moi » au verset 4. Dans cette deuxième partie du psaume, David quitte le registre de la plainte et il va rentrer petit à petit dans une phase plus active, la demande d'expression de ses besoins. Et ce qu'il cherche avant tout, c'est la présence de Dieu lui-même. C'est ce qu'il exprime quand il demande à Dieu de le regarder et de lui répondre au verset 4. On peut presque l'entendre crier à l'Éternel pour attirer son regard et son attention. L'image, c'est un peu celle d'un enfant qui désire plus que tout l'attention inébranlable de son père. Les enfants, ils sautent dans tous les sens, vous vous demandez pourquoi, en fait, ils veulent juste vous faire parler. Un point important ici, c'est de ne pas chercher à résoudre nos difficultés tout seul. Avec cette prière, David reconnaît sa totale dépendance au Seigneur. Il sait qu'il ne peut rien sans l'Éternel. « J'ai besoin de toi, » dit David. « Sans ton intervention, je resterai dans la souffrance et à la merci de mes adversaires. » Alors, lorsqu'on se retrouve confronté aux difficultés, le danger est de croire qu'on peut ou qu'on doit s'en sortir tout seul. C'est des fois difficile de demander de l'aide, hein ? Alors aujourd'hui, on a à notre disposition toute une quantité de ressources, d'astuces, de conseils, de techniques pour aller mieux. Et donc on pense qu'en ajustant, en utilisant cette technique ou celle-là, on peut s'en sortir tout seul. On peut aussi, certains le font, on peut aussi choisir d'ignorer notre souffrance, la mettre sous le tapis et nous plonger dans autre chose, dans le travail, dans la réussite personnelle, dans les distractions en tout genre. Et si on se souvient du témoignage d'Ayouba, pour lui, la solution, elle était simple. Pour aller mieux, il fallait venger. Il fallait venger son père. Il fallait venger et tuer les personnes responsables, ceux qu'il avait dénoncés. Et finalement, à travers ces groupes de parole et ces groupes de soutien psychologique, il a expérimenté que de recevoir de l'aide était bien plus efficace pour guérir et trouver réellement la paix. Simplement relire ce qu'on a entendu encore dans la vidéo. Voilà ce qu'il disait. « Lorsque je suis arrivé ici, j'avais décidé de ne jamais pardonner et de venger la mort de mon père. Aujourd'hui, je n'ai plus aucun problème avec l'homme qui l'a dénoncé. Si nous nous rencontrons, nous nous saluerons. J'ai réalisé que je ne gagnerai rien à me promener avec un couteau pour me venger, puisque je serai toujours blessé et que je n'aurai jamais l'esprit tranquille. J'ai donc décidé de laisser tomber ma colère et d'être en paix. Dieu m'a amené ici pour me guérir. » Demander de l'aide à Dieu doit être notre priorité. Sa présence, elle est indispensable au quotidien. Et elle est d'autant plus quand la souffrance nous ronge. Un autre point qui ressort de ce psaume, c'est que C'est important de demander l'éclairage de la vérité. Après avoir recherché la présence de Dieu, David fait autre chose, il demande à Dieu de donner de la lumière à ses yeux. On va lire, c'est verset 4. « Regarde, réponds-moi, éternel mon Dieu, donne la lumière à mes yeux, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Donne la lumière à mes yeux. » Et plusieurs idées sont associées à cette notion de lumière. D'abord, grâce à la lumière de Dieu, David souhaite voir la situation comme Dieu la voit. Il reconnaît que sa perspective humaine, elle est limitée, alors que la vision de Dieu, elle est toujours pleine et parfaite. Ensuite, la lumière est aussi un moyen de discerner la main de Dieu qui est à l'œuvre dans l'obscurité des épreuves que nous traversons. Et ça, on a du mal à le réaliser parce que on est humain, et c'est très compliqué. La lumière est un moyen de discerner la main de Dieu à l'œuvre dans l'obscurité des épreuves que nous traversons. Ça demande beaucoup de maturité pour comprendre ça. Et puis les yeux sont considérés comme le reflet de l'âme, et donc obtenir la lumière dans les yeux projette l'image d'une âme lumineuse, riche et joyeuse. Dans sa lettre aux Éphésiens, Paul reprend aussi cette idée. Éphésiens 1, 17 à 19, voilà ce qu'il dit. « Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous, croyants. » Bon, il y aurait une série de messages juste sur ce verset. Hein. Et voilà cette idée de la lumière de Dieu qui vient en nous. Qui guérit aussi. Cette lumière de Dieu, elle nous permet de changer de perspective, d'avoir la sienne, la perspective de Dieu, de ne pas perdre sa souveraineté, qui est agissante dans nos vies, même si les circonstances nous disent autre chose. Gardez l'espérance. Et donc cette lumière, elle permet aussi pour David de ne pas sombrer dans le sommeil de la mort. Intéressant cette image du sommeil de la mort. Elle est en fait assez effrayante. On peut ressentir l'inquiétude de David, qui a peur de glisser dans le vide du désespoir ou de la dépression. Et cette crainte, elle est légitime. Parce qu'il était persécuté lui-même, il était poursuivi, sans cesse, pas de repos. Et sans la lumière du Dieu de vérité pour nous éclairer, tel un phare qui perce la brume du désespoir, eh bien la navigation dans les eaux troubles de la souffrance et de l'amertume, elle n'est pas simplement difficile, elle est en fait dangereuse. Sans la lumière qui donne la vie, nos âmes peuvent se noyer dans les profondeurs de la désolation. Si on prend un exemple aussi dont on a parlé ce matin, Marie, dont vous avez entendu l'histoire, Marie, elle avait toutes les raisons de sombrer dans ce sommeil de la mort. Elle avait vécu des multiples traumatismes et à vue humaine, ça peut la briser définitivement. Et même si la douleur ne l'a jamais vraiment quittée, elle a pu voir Dieu agir de façon surprenante au sein même de son épreuve et la garder du désespoir. On va relire ce qu'elle nous dit. Donc elle s'est fait enlever par des peuls avec d'autres femmes. Voilà ce qu'elle dit. Un homme avait une arme et était prêt à nous abattre toutes. Je n'arrêtais pas de prier dans ma tête. Et pour une raison inconnue, l'homme est parti et nous a laissés seuls. Je sais que Dieu est intervenu. Un jour, l'un des peuls est venu s'asseoir à côté de Marie. Elle s'est sentie obligée de lui demander s'il réalisait le mal qu'il faisait. Il a répondu que tous savaient ce qu'il faisait était mal et qu'il ne pouvait pas s'arrêter. Je lui ai dit qu'il y a bien un moyen de s'arrêter. Si vous donnez votre vie à Jésus, il vous pardonnera et vous pourrez arrêter toutes ces choses que vous faites. Voilà un courage inspirant. Elle a partagé aussi l'évangile avec deux autres de ses ravisseurs, malgré les dangers pour elle. Voilà ce qu'elle dit encore. J'ai continué à prier dans mon cœur pour que Dieu nous sauve de cet endroit, car personne d'autre ne peut nous sauver. Seule sa puissance et sa grâce pouvaient nous sortir de là. Troisième partie de ce message, la troisième partie du psaume, trouvez notre joie en Dieu. Moi, j'ai confiance en ta bonté. Et c'est la fin du psaume, et effectivement, quel contraste entre ce dernier verset et les premières lignes du psaume. Et il semble peu probable que David ait écrit le psaume 13 sur plusieurs années en ajoutant le verset final une fois la difficulté passée. Et donc, on peut en déduire que c'est au cœur même de l'épreuve et de sa souffrance que David est finalement capable d'écrire cette magnifique louange. Il nous dépeint une joie qui ne dépend pas des circonstances. Voilà, ce retournement final illustre encore une fois cette vérité profonde qui traverse toute la parole. Notre joie et notre paix ne sont pas conditionnées par les circonstances, parce qu'on vit, ou parce que les autres vivent autour de nous. Bien sûr, on aspire tous à une vie où les problèmes se règlent, où la souffrance est limitée, où les circonstances nous sont favorables. Et c'est même légitime d'attendre cela de Dieu, comme les enfants espèrent bonnes choses de leurs parents. Et c'est aussi ce que David attendait. Mais ça ne peut pas être le fondement de notre foi. Parce que comme des enfants, on ne sait pas toujours ce qui est bon pour nous, en fait. Et si notre reconnaissance et notre amour sont uniquement fondés sur la réponse de Dieu à nos prières, évidemment, on a un gros problème. Et donc, comme David l'exprime, notre joie et notre reconnaissance sont en fait la réponse à qui est Dieu, au salut qu'il nous donne. Qu'on a chanté ce matin. C'est lui-même qui est notre bonne nouvelle. C'est pas ce qu'il a fait pour nous. C'est lui-même. Et un autre témoignage d'un chrétien éthiopien qui s'appelait Awel, qui est assez parlant à cet égard, parce que c'est quelqu'un qui chantait en toutes circonstances. Et en fait, Portes Ouvertes nous dit qu'il y a de nombreux témoignages de chrétiens persécutés qui, en fait, ont ressenti une joie profonde simplement parce qu'ils ont ressenti la présence de Jésus à leur côté, alors même qu'ils étaient dans des circonstances extrêmement difficiles et qui subissaient des grandes souffrances physiques ou émotionnelles. Et donc, l'histoire d'Awel, elle est interpellante parce qu'il est sorti du désespoir et de la déception en réalisant finalement quel était le vrai but de son existence. Aimer Dieu par-dessus tout et le louer, quelles que soient les circonstances. Je vais vous lire son témoignage. Donc Awel est éthiopien et il a passé 15 ans de sa vie en prison. Et malgré les tortures endurées, il n'a jamais connu la dépression. Il supportait avec joie son emprisonnement, car il désirait montrer qu'il était un témoin vivant de Jésus-Christ, un témoin fort. Et ce furent 15 années de paix avec le Seigneur. Une fois sorti de prison, Awel s'est retrouvé désorienté et même déprimé, car il n'était pas préparé au défi qui l'attendait. Sa femme et ses enfants ne l'attendaient plus et avaient continué leur vie sans lui. Ses amis, eux, avaient avancé dans leur vie personnelle pendant ces 15 ans. Et donc, c'était la confusion dans sa tête. Il se disait, mais qu'ai-je fait pendant ces 15 ans en prison ? Il était déçu, il doutait de ses capacités et il s'est mis à douter de la bonté de Dieu. Il se disait, ma vie est pleine de désespoir, a-t-elle encore un sens ? Ainsi, il est entré dans ce qu'il a appelé la plaine de l'amertume, au bord de l'étang de la déception. Et pour sortir de cet état, il a fallu qu'Awel comprenne le plan de Dieu pour lui-même, le vrai sens de son existence. Celui que Jésus nous rappelle dans Matthieu 22, 34 à 40, et notamment ce verset, le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu par-dessus tout. Et c'est ça le sens profond et le but de nos vies. Ainsi, Awel a réussi à accepter les frustrations de ses 15 années passées en prison et cette traversée de la vallée de l'ombre de la mort. Il a pu recommencer à vivre pour Dieu. Aujourd'hui, il doit toujours faire face à diverses persécutions, mais voici ce qu'il déclare. « Quand je suis persécuté, je me dis que cela vient de Dieu. Et quand Dieu me délivre, cela aussi vient de lui. Dieu est bon en toutes choses. Donc quand la persécution vient, je chante. Et quand Dieu me délivre, je chante aussi. J'ai un chant pour chaque circonstance. C'est un miracle pour moi, j'ai perdu tant de choses, ma femme, mes enfants, mes biens, et encore aujourd'hui, tant de persécutions m'entourent. Mais je suis heureux, je me réjouis à cause du Christ. Tout ce que j'ai perdu est de ce monde, mais ma joie est au ciel, dans ce qui est éternel, la plus belle des guérisons et la guérison de l'âme. » Voilà. Ça force le respect. Et donc, pour passer de l'amertume à la joie, il y a une chose qui est essentielle, de prendre conscience, c'est que Jésus est toujours là, et c'est ce que nous dit Awel. Quand on lit les expériences des uns et des autres persécutés, ils témoignent en fait de l'assurance que Dieu leur a donnée au travers de l'épreuve. Ils deviennent capables de rire, de vivre en paix avec Dieu, quelles que soient les nouvelles épreuves qui leur arrivent. Et ça passe aussi par un processus de guérison pour quitter ce rivage de l'amertume. C'est quelque chose, l'amertume, qui peut s'installer suite à la souffrance en nous. Et donc, quelle est la clé? Déposer notre propre situation, lâcher prise et accepter la réalité de ce que nous éprouvons. On ne doit pas craindre de regarder notre vie et nos sentiments avec lucidité parce que Jésus est toujours là. Et malgré la déception et le découragement, il nous sort de l'étang du désespoir. Ensuite, pour surmonter ces déceptions, il nous faut comprendre le vrai sens de nos vies, ce qui compte réellement. Alors seulement on pourra réévaluer nos existences avec cette perspective nouvelle. Et même si on a beaucoup à perdre, même si traverser la vallée de l'ombre et de la mort, ce n'est pas réjouissant, et bien on pourra entrer dans cette véritable joie que nous offre Jésus. En conclusion, qu'est-ce qui compte vraiment? Qu'est-ce qui donne de la valeur à nos vies? Qu'est-ce qui nous aide à dépasser la souffrance et à être dans la joie? C'est ce dont Noémie nous a parlé et qu'on a tous découvert un jour. C'est notre amour pour Dieu. D'abord, fondamentalement. C'est notre amour pour notre prochain et notre amour pour nos frères et sœurs, où qu'ils soient dans le monde. Alors simplement, encourageons-nous les uns les autres, aimons-nous les uns les autres. Et c'est dans cet amour qu'on va grandir avec Dieu. Ne restons pas dans l'amertume, parce que l'amertume nous fait passer à côté de la grâce de Dieu. C'est ce que Paul nous disait dans Hébreux. Et rappelons-nous aussi que l'épreuve porte du fruit, comme le souligne Paul aux Philippiens. Dans Philippiens 1, 12, 14. Je désire que vous le sachiez, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour le Christ que je suis en prison. Et la plupart des frères et sœurs, encouragés dans le Seigneur par mes chaînes, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Retrouvons donc le chemin qui est de ce qui est important, c'est-à-dire le chemin de la grâce de Dieu, vécu par Jésus jusqu'à la croix. Et à travers ses propres souffrances, sa propre solitude, son abandon par le Père à la croix, notre Seigneur Jésus, il nous comprend. Il est le seul capable de nous relever, de nous offrir cette joie profonde. Cette joie entière, pure, indépendante des circonstances. On l'a fait ce matin, ce souvenir qu'il a payé ce prix un prix considérable à la croix pour nous offrir cette joie, parce qu'il était déterminé à nous sauver. Je voudrais finir en lisant une prière de Mehdi Bibak, qui est un chrétien iranien emprisonné, torturé, condamné à mort en raison de sa foi. Voilà ce qu'il dit et ce qu'il prie à Dieu. C'est aux humbles que Dieu accorde sa grâce. C'est dans le feu que l'or est purifié. C'est le polissage et la taille qui rendent le diamant brillant. C'est à haute température que la rouille du pot est brûlée. C'est par la porte étroite que nous entrons dans le royaume des cieux. C'est dans de très grandes épreuves que naissent les hommes et les femmes de Dieu. Seigneur, fais de moi un tel homme, une telle femme. Alors voilà, on a pris les sujets de prière. Je vous invite à aller voir sur le site de Portes Ouvertes. Vous pouvez vous inscrire par mail pour recevoir pendant toute la semaine qui vient aussi les différents sujets. Priez pour nos frères et sœurs en Afrique. Et puis il y a aussi des moyens très concrets. Portes Ouvertes vit de dons. Donc n'hésitez pas à leur faire des dons. Ils seront bien utilisés. Voilà, pour finir, quelques annonces sans transition.